Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue. Élever les enfants comme tu le veux, toi. C'est venu la semaine dernière suite à une conversation autour du regard des autres, autour de la façon de prévenir nos enfants de ce qui les attend dans l'avenir. On ne peut pas tout prévoir, mais on va sûrement en parler aujourd'hui, de faire des choix éducatifs et des choix parentaux qui peuvent éventuellement déranger les gens autour de vous. Donc ça peut se manifester par des conseils non sollicités, par exemple votre voisine qui n'a pas élevé ses enfants comme vous, vous le faites, ou alors la belle-mère, le beau-père. Donc comment vous allez gérer les remarques désobligeantes, les remarques qui piquent tout autour de vous. Ce n'est pas si facile de réagir de manière calme quand on vous dit que vous ne devriez pas allaiter votre enfant, que vous ne devriez pas être en cododo, ou reprendre le travail, ou le laisser à la nounou, etc. Tout ce que les gens pensent de vous et de la façon dont vous élevez vos enfants. Ça apparaît très régulièrement dans les magazines féminins. Est-ce qu'on doit remettre à sa place les gens? Est-ce qu'on peut vivre tranquillement sans avoir à se justifier? Voilà un petit peu le cadre de cette discussion aujourd'hui. J'étais enseignante pendant 22 ans en maternelle REP+ dans le 92, dans une cité difficile, avec des enfants qui avaient peu de repères pour certains. Et tout au long de ma carrière, j'ai amené un peu plus de compréhension, d'explicitation de la réalité, de l'actualité, pour que chacun des enfants se connaisse, puisse poser des actes, prendre des responsabilités et soit autonome émotionnellement, affectivement et intellectuellement. On va voir sans doute tout à l'heure que le fait de faire des choix en tant que parents va modéliser, va incarner, va donner à nos enfants et nos élèves, quand on est professionnel de la petite enfance ou de l'éducation, déjà des critères, des théories, des croyances. Ce qu'on transmet en étant éducateur, en étant professeur, en étant babysitter, en étant parent, c'est déjà des choses que l'enfant va s'approprier, va rassembler en lui. Il va penser que c'est comme ça que ça fonctionne, il va penser que c'est comme ça que le monde marche. Si on est élevé ou éduqué par des gens qui ont peur du monde extérieur, qui sont craintifs, qui sont timides, il se peut que le comportement induit, c'est de la méfiance, de la vigilance, et tout ça vis-à-vis de l'actualité et du monde extérieur. Donc comment voyez-vous les choses de votre côté? J'ai maintenant à cœur de transmettre tous ces outils-là aux familles directement. Donc j'ai quitté l'éducation nationale et j'accompagne les mamans principalement. Mais là, j'ai eu la réservation d'un papa, je suis super contente. Je vais travailler avec un papa en séance individuelle. Et donc je les accompagne à mieux comprendre le développement de l'enfant, comment on pose un cadre à la maison, comment on pose des règles de vie sans être dans la domination, dans la soumission, dans la violence éducative. Et ça passe aussi par apprivoiser et appréhender nos propres émotions de parents, nos propres liens à l'héritage parental qu'on a reçu. Suivant comment vous avez été élevé vous-même, vous allez peut-être reproduire ou vous éloigner de l'éducation que vous avez reçue. Donc en classe, on avait beaucoup ce genre de conversation entre deux portes, en entretien avec les familles. Donc ça, c'est dans l'épisode 18 du podcast. Et tout ça m'a amené à voir que chaque famille fait vraiment de son mieux. Chaque famille fait avec les informations qu'elle a reçues. Mais on n'a pas tous les mêmes informations. On a des informations qui sont parfois théoriques, qui sont parfois religieuses, qui sont parfois culturelles ou qui sont parfois liées à une tradition de laquelle soit on veut perdurer hein, sur la tradition qu'on a reçue, ou alors si on veut s'en éloigner. Il y a beaucoup de mamans dans les rooms Clubhouse qui disent « Moi, j'ai envie de faire autrement. Autrement que mes parents m'ont élevé, autrement que j'ai reçu ces concepts, ces croyances quand moi j'étais petit ou petite. » Si c'est une situation que vous avez déjà vécue, d'avoir du mal à répondre à quelqu'un qui critique votre façon d'élever vos enfants, d'avoir peut-être une difficulté à expliquer pourquoi vous faites ces choix-là en 2023, d'avoir fait de la motricité libre, de faire l'instruction en famille, de décider d'un mode d'alimentation différent, de partir au bout du monde avec vos enfants, il y a des projets qui prennent sens dans la façon qu'on a de les mener de manière individuelle, de manière personnelle. On a en retour parfois des commentaires, parfois des avis. Donc les personnes posant un commentaire sur TikTok, les personnes envoyant un message privé sur les réseaux sociaux, ont eux leur façon de penser, bien entendu. Tout le monde a une façon de penser différente, mais qui n'est pas forcément dans la confrontation ou dans la soumission d'opinion. J'attache beaucoup d'importance à ces termes-là que j'avais définis dans l'épisode 57 sur le podcast qui parlait de l'atelier philosophique. C'est que les jeunes enfants, ils sont tellement imprégnés des opinions de leurs parents qu'ils pensent que c'est la seule réalité et la seule alternative possible. Si papa pense que les étrangers prennent le travail des Français, si papa pense qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, l'enfant va, au début de sa maturité intellectuelle, penser que les étrangers sont donc dangereux, penser que les étrangers prennent l'argent de la France. Je vous donne un exemple très caricatural pour dire que s'il n'a pas d'autre champ d'opinion de pensée autour de lui, c'est très normal qu'un enfant soit conditionné à penser comme son parent. De la même manière, quand on va grandir, quand on va nous-mêmes avoir des enfants, si on n'a pas ouvert notre champ de perspective, si on n'a pas confronté nos idées à d'autres modes de pensée, à peut-être des spécialistes, peut-être des experts, on va se baser sur ce qu'on a toujours cru. Et dans la parentalité, on peut parfois parler du mode de coucher des bébés. Pendant longtemps, les bébés ont été couchés sur le dos. Ensuite, ils ont été couchés sur le ventre parce qu'on pensait que ça leur évitait de s'étouffer pendant la nuit. Et puis, à nouveau, maintenant, on les couche sur le dos. Les avancées scientifiques, les recherches en neurosciences, l'affinement des concepts entre le développement neuro-moteur, physiologique, émotionnel de chacun des enfants, il y a des découvertes en continu. Si on ne se met pas à jour sur ces découvertes, on peut rester et végéter dans des croyances et dans des théories qu'on a nous-mêmes entendues quand on était petit. Donc, un des fils à dérouler aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les choses qu'on croyait sûres, établies, quand on a découvert ce qu'était un parent. Qu'on a découvert ce que c'était un parent parce qu'on a observé nos parents la plupart du temps. Quel est notre héritage parental? Ça, c'est l'épisode 74, si vous voulez l'écouter. Quel est l'héritage que vous avez reçu de vos propres parents pour comparer à ce que vous, vous voulez être comme parent maintenant? L'éducation a beaucoup évolué. On était d'une éducation de la soumission, de l'obéissance, de la domination pendant des décennies, pendant même des siècles. La figure du père de famille, du patriarche est encore très présente dans notre société actuelle, ce qui veut dire que le père, dans certaines familles, est le seul à décider, à diriger, à avoir le dernier mot. Et dans d'autres familles, dans d'autres cultures, dans d'autres pays, il y a un équilibre progressif avec la place de la femme, avec la place de la mère, avec la possibilité à la mère de décider elle-même de ce qu'elle va faire quand elle sera maman. Est-ce qu'elle va choisir d'allaiter ou non? Est-ce qu'elle a le choix de prendre cette décision? Est-ce qu'elle est contrainte par l'extérieur, la communauté, son mari, de faire certains choix? Ou est-ce qu'il y a une autonomie et une liberté de choisir ce qu'elle croit bon pour elle? Je vais déjà poser ce premier point de ce qu'on croit bon pour nous. Ce qu'on croit bon pour nous à l'instant T, n'est pas forcément ce qui est bon pour nous parce qu'on n'a pas toutes les connaissances du monde entier en perspective. Mais à l'instant T, vous pensez que c'est bon pour vous, avec votre histoire, avec vos braises dans votre cheminée des émotions, avec vos expériences et avec vos lectures du moment, votre expertise du moment. Si vous suivez 25 coachs en parentalité sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vous allez voir que leurs avis divergent sur plein de sujets différents. Et sur certains sujets, ils sont en accord, ils sont en concordance. Qu'allez-vous en penser ? Est-ce que vous allez vous diriger vers celui qui a le même avis que vous ? Ou est-ce que vous allez entendre un avis divergent, le confronter à votre croyance du moment, votre opinion sur votre mode d'éducation sur ce domaine-là avec votre enfant ? Ou alors se dire « c'est trop confrontant pour moi, je ne veux pas m'occuper de cette question maintenant, j'y réfléchirai plus tard ». Et cette question de la divergence, moi j'aime beaucoup ce thème parce que quand on a peu de confiance en nous en devenant parent, ce qui est normal puisque c'est vraiment un nouveau domaine, on n'a pas beaucoup de modes d'emploi quand on devient parent, donc on tâtonne, on ne se rend pas compte au début du nombre de décisions qu'il y a à prendre. Souvent, j'aborde les gens quand on fait des événements extérieurs dans ma ville en leur disant « Est-ce que vous avez imaginé, avant d'être parent, tout ce que ça comportait comme conséquence, comme décision, comme doute, comme émotion au niveau du parent, pas seulement au niveau de l'enfant ?» Et la plupart des parents me répondent « Mais jamais on n'aurait imaginé tout ce que ça comportait d'être un parent actuellement, dans cette génération-là. » Vous êtes constamment confronté à des décisions, à des options possibles, à des embranchements. Donc c'est comme s'il y avait un arbre avec à chaque fois, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Oui, on peut mettre à l'école. Oui, on peut faire l'instruction en famille. Oui, on peut rester tous les week-ends à la maison. Oui, on peut sortir tous les week-ends. La vie va être faite de choix et la vie parentale également. Mais autour de vous, vous allez avoir en continu des gens qui sont plutôt d'accord avec vous et des gens qui ne sont pas d'accord avec votre façon d'éduquer vos enfants. Donc, comment faites-vous quand quelqu'un vient vous voir en disant « Je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu, trois petits points, élève ton enfant, parle à ton enfant, soumets ton enfant, nourris ton enfant, fais dormir ton enfant ?» Quelle est la réponse que vous apportez, vous, quand quelqu'un vient vous confronter ? Moi, j'en parle très régulièrement sur le podcast de la différence entre l'éducation que j'ai reçue et l'éducation que je veux donner à mes enfants, qui est très différente. Je vous donne un petit exemple, par exemple. Quand j'ai décidé de prendre le mercredi pour moi en tant qu'enseignante et de ne pas garder ma première fille à la maison le mercredi, j'ai eu des réflexions, notamment de ma mère, me disant « Mais quand même, tu es à la maison le mercredi. Tu pourrais t'occuper de ta fille. Tu pourrais garder ta fille le mercredi puisque tu es à la maison. » Donc ça, c'est une option possible, en effet. Je pourrais garder ma fille à la maison puisque moi, je suis censée ne pas travailler le mercredi. Mais le mercredi me servait à récupérer de la fatigue des autres jours de classe. Le mercredi me servait à avancer peut-être dans des projets personnels, dans des projets associatifs. Donc, il avait un sens différent pour moi. Il avait un sens d'autonomie. Il avait un sens de liberté. Il avait aussi un sens de légèreté. Puisque les autres jours, j'entendais des enfants toute la journée qui étaient vivants, qui criaient, qui jouaient, qui demandaient de l'attention, qui demandaient de l'investissement, de l'implication, du soin, de l'accompagnement, des paroles. Mon métier d'enseignante de maternelle était finalement assez proche de mon métier de maman le mercredi. Et je n'avais pas à l'époque envie de cumuler les deux. Donc j'avais fait ce choix divergent, même si je ne travaillais pas le mercredi, de laisser ma fille au centre de loisirs le mercredi. Et c'est quelque chose que je continue de faire, même si je suis libre de mon emploi du temps en tant qu'indépendante. En tant qu'entrepreneuse, je pourrais faire le choix de récupérer ma fille le mercredi, de ne pas faire de room clubhouse, de ne pas mettre de séance le mercredi. Mais le mercredi, ça peut aussi arranger des mamans. Ce matin, j'étais en séance avec une cliente individuelle qui, justement, le mercredi, a pris sa journée pour elle. Ça lui fait du bien de s'occuper aussi d'elle un jour par semaine comme elle le peut. Quand nos enfants sont gardés par quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'on est complètement disponible pour nous faire plaisir, pour cocher hein, notre liste de tâches sur la to-do list, mais c'est un créneau qu'on s'accorde. C'est une possibilité qu'on s'apporte. C'est une sorte de temps de qualité qu'on s'offre à nous-mêmes. Et quand on me disait que c'était divergent comme choix, enfin on ne me le disait pas comme ça, mais on me faisait sentir que quand même je devrais plus m'occuper de ma fille le mercredi, j'avais plusieurs façons de répondre. Je pouvais répondre en disant « je comprends que c'est ta vision de la garde d'enfants, que pour toi, quand on ne travaille pas, on prend ses enfants avec soi. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois, c'est ton avis et c'est ton opinion. » Donc une des façons de répondre à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous ou notre mode de vie, ça peut être de valider que son opinion, on l'a entendue. Pas qu'on est d'accord, mais qu'on l'a entendue. Donc là, on va vraiment sur les pistes de l'écoute empathique que vous avez pu découvrir dans l'épisode 56 ou dans le dialogue avec quelqu'un que vous avez pu entendre dans l'épisode 19 ou 77. C'est que l'avis de l'autre, je peux le prendre en considération sans être d'accord avec lui. Et cet avis qui importe à l'autre, puisqu'il nous le donne, c'est qu'il veut créer la discussion, soit la discussion ouverte ou la discussion de confrontation, parce que ça peut être un mode aussi d'attirer l'attention en disant « mais pourquoi tu fais ça? Tu ne devrais pas faire ça ?» en critique, en jugement, comme si on mettait un peu d'huile sur la conversation, de vouloir se confronter et s'opposer à quelqu'un qui n'a pas le même avis que nous. Quand vous observez les débats politiques, c'est un jeu intéressant, c'est une joute verbale intéressante. On peut avoir envie de convaincre l'autre de son point de vue. Ou on peut faire le choix inverse. On l'évoque de temps en temps avec Rémi. Quand il pose ce qu'il fait avec son enfant, avec sa fille, il ne dit pas « j'ai la solution, vous devriez faire comme moi ». Il invite les gens à réfléchir qu'il y a d'autres possibilités de faire. Quand votre enfant fait une bêtise, quand votre enfant a un comportement inadapté, certains parents vont décider de punir, vont décider de taper, vont décider de crier. Ce sont des options possibles sur l'éventail de stratégies. Et pendant des décennies, les parents ont mené ces actions comme si elles étaient naturelles. L'enfant fait une bêtise, je crie sur lui, je le punis ou je le tape. Ça n'était presque pas remis en question. L'éducation faisait partie presque d'un mode de correction. Et tout l'apport des neurosciences, les travaux de Montessori, les travaux de Céline Alvarez, les travaux autour des pays nordiques, on parle beaucoup en ce moment de ce qui se passe en Suède, tout ça nous met face à la réalité qu'on peut faire autrement. Certains pays ont décidé de retirer les châtiments corporels il y a 50 ans. La France a hésité, il y a eu des textes de loi sur la fessée, ça a été voté, retiré, revoté. Les gens n'ont pas le cadre de référence des droits de l'enfant à avoir une sécurité et une intimité sans violence. Donc on pourra éventuellement refaire un épisode sur les violences éducatives ordinaires, mais le fait d'avoir une opinion pour élever nos enfants, pour éduquer nos enfants d'une façon différente de nos voisins de palier ou nos voisins de pays, est intéressante pour la curiosité. Quelles sont les conséquences qu'on attend d'un père qui tape ses enfants pour les élever ? Par rapport à un autre père qui va passer par le dialogue, par la régulation émotionnelle, par la connexion à son enfant, par un lien d'attachement fort. Tout ça, ça peut vous paraître des mots valises, des mots un petit peu dans le jargon de l'accompagnement parental ou de la pédagogie. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez reconsidérer que les actions que vous faites avec vos enfants ont été décidées en amont, soit consciemment, soit de manière héritée. Parce que vous avez reçu vous-même comme éducation. Et il n'y a pas à le juger, il y a juste à en prendre conscience maintenant en disant « Pourquoi est-ce que je crie sur mon enfant? Pourquoi est-ce que je tape mon enfant? Pourquoi est-ce que ça me fait tellement bouillonner que je veux être le chef, je veux avoir le contrôle du comportement de mon enfant ?» Et parfois, les féministes remplacent le mot « enfant » par le mot « femme » pour qu'on se rende compte, ou par le mot « noir ». Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir le contrôle sur notre femme? Pourquoi on voudrait avoir le contrôle sur l'immigré ou sur le noir qui habite dans notre quartier? Vous voyez, quand on remplace les mots « enfant » par un autre mot, on voit encore plus que c'est stigmatisant vis-à-vis du respect des droits de l'enfant. L'enfant a tout autant de droits à la sécurité, à la paix, à l'écoute, à la valorisation que n'importe quel être humain adulte. Qu'il soit femme, qu'il soit dans une orientation sexuelle différente de la majorité de la population, qu'il vienne d'un pays différent, d'une religion différente. Tant qu'on voit l'autre comme un étranger, ça active un système de peur, de distance, de mise en sécurité. Si on croit que l'autre ne fait pas correctement ou qu'il est dangereux pour nous, on ne va pas pouvoir l'écouter pour le comprendre. On ne va pas pouvoir se connecter pour savoir pourquoi il fait autrement. Non pas qu'il ait raison non plus de faire autrement, mais juste s'intéresser, avoir un peu de curiosité pour savoir pourquoi est-ce que tu crois qu'il faut taper ton enfant pour qu'il t'écoute. Et il y a un exemple très connu aussi qui est de ne pas crier sur nos enfants. Quand on leur dit de ne pas crier, on est nous-mêmes en train de crier. Donc est-ce qu'on veut que nos enfants arrêtent de crier parce qu'on leur crie dessus ? Ça paraît assez illogique. Et pourtant, on l'a tous fait. Moi aussi, j'ai crié sur mes élèves de ne pas crier. Et puis un jour, ça m'a sauté aux yeux. Un jour, j'ai pris conscience que c'était aberrant, en fait, comme comportement. Et ça a amené tout un tas de prises de conscience sur mon métier d'enseignante, sur le fonctionnement de l'éducation nationale, sur le fonctionnement de la parentalité dans le côté global. Pourquoi on fait ainsi avec nos enfants? Est-ce qu'on n'a pas cherché d'autres moyens parce qu'on était trop fatigué? C'est une possibilité. Beaucoup de parents sont fatigués, épuisés et débordés au quotidien et n'ont plus les ressources pour se mettre en quête de nouvelles informations, de nouveaux éléments. Parce que, en gros, la pile est complètement à plat. Quand on est déjà à plat, on va avoir du mal à se lancer dans une recherche, de demander de l'aide, d'aller voir un expert, d'aller voir un spécialiste. Parce qu'on est déjà en manque de ressources nous-mêmes pour nous-mêmes. Donc il va falloir souvent capitaliser déjà sur soi-même pour retrouver un petit peu d'énergie, pour comprendre pourquoi on voudrait un changement. Parce que si on n'a pas envie de changer, ça va être encore plus dur d'activer le changement. Il va y avoir une résistance. Si on n'est plus en capacité de réfléchir et qu'on n'a plus d'énergie, on va sans doute élever nos enfants comme on a été élevé ou comme on voit autour de nous. Parce qu'on aura du mal à retrouver un peu de sens, de cohérence et d'énergie en nous-mêmes pour faire autrement. Et souvent, j'explique aux mamans avec qui je travaille que la résistance qui va s'installer quand on va vouloir faire autrement, elle est complètement normale. C'est difficile de mettre en place un nouveau comportement parce qu'on a eu l'habitude de fonctionner différemment. Si tu décides dans une famille où tout le monde a allaité de donner le biberon à ton enfant, il se peut qu'autour de toi, il y ait des regards désapprobateurs parce que pour elles, allaiter est la seule voie. Alors, elles vont pouvoir te le faire reprocher, te le faire ressentir que c'est divergent, que c'est inacceptable selon leurs termes, selon leur culture, selon leur point de vue et puis selon la maîtrise du langage aussi. Ou alors, elles peuvent aussi te demander tes raisons. Pourquoi as-tu choisi ça? Et tu as sans doute choisi de donner le biberon parce que, au niveau de la logistique, de la fatigue, de la reprise du travail, que sais-je, pour toi, ça faisait sens. Donc, soit on le prend personnellement, ce que l'autre nous dit, et je pense que je parlais déjà ça dans l'épisode 40, ou alors on décide de ne pas le prendre personnellement, d'exprimer pourquoi ce choix-là est le bon pour nous actuellement. Ce qui ne veut pas dire que quand on aura un prochain enfant, on fera la même chose. Peut-être qu'on tentera pour le prochain enfant d'allaiter à notre tour. Mais sur cet enfant-là, si on fait le choix de donner le biberon, il se peut qu'autour de nous, il y ait tout un tas de brigades de l'allaitement qui nous débarquent et qui nous disent « Mais comment, tu n'allaites pas ton enfant? Mais c'est ce qui est le meilleur pour lui et l'OMS recommande pendant 6 mois de l'allaiter, t'es une mauvaise mère ». Et tout un tas de critiques extérieures et de jugements non sollicités qui pour eux font complètement sens parce que dans leur mode de pensée, ce qu'elles ont fait est la seule voie, est la meilleure voie, qu'elles n'ont même pas cherché à s'opposer et à voir qu'il y avait d'autres options possibles et que dans le système d'appartenance qu'on recherche, dans le système d'englobement, de communauté, ça peut être rassurant de faire comme les autres. Quand on s'éloigne d'un système d'appartenance ou d'une communauté et qu'on fait différemment, qu'on est le premier à voyager avec ses enfants pendant un mois autour du monde, alors que personne autour de nous n'a voulu voyager avec son enfant pendant 2 jours, évidemment, on va passer pour divergent. Ça va être compliqué pour les gens de nous comprendre. Donc, soit ils ont une écoute empathique, ils ont une compréhension de l'altérité qui va être qualitative pour un dialogue, ou alors ils vont juste balancer des critiques, des pics, qui montrent leur système de croyance actuel et qu'on peut, nous, ne pas recevoir personnellement, ne pas être impacté, parce qu'en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne sont pas dans votre état à vous, dans votre cheminée des émotions. Ils ne connaissent pas l'état de vos besoins actuellement. Ils ne connaissent pas votre état affectif, émotionnel, intellectuel, surtout s'ils ne vous posent pas de questions. Donc sur ce thème d'aujourd'hui, quand tu vas faire tes premiers choix, quand tu vas décider de faire autrement que tes voisins, que ta belle-mère ou que ta sœur, ça peut être confrontant pour eux. L'essentiel est que pour toi, ça ait un sens suffisamment profond pour te conforter dans cette décision. Là, je parle dans le cas où le conjoint, le mari ou la femme est d'accord avec toi. Si en plus on rajoute des tensions dans le couple, c'est vrai que ça va être plus compliqué pour maintenir l'équilibre global. Mais là, on va prendre une personne extérieure à toi qui critique ta façon de faire. Toi, tu es un havre de sécurité, tu es une bulle de sécurité. C'est toi la maman, c'est toi le papa. Tu es responsable de la bonne éducation et d'élever cet enfant comme tu le sens toi au moment où tu l'élèves. Ce qui n'empêchera pas, si un jour tu as des doutes, d'aller voir un expert, d'aller voir un spécialiste, de te renseigner, de te former. À tout moment, on peut aussi changer d'avis. Donc le côté obtus de certaines personnes autour de nous, il est naturel. Le côté obtus de certaines personnes qui ne veulent même pas entendre que tu puisses faire un choix différent d'eux, c'est tellement insécurisant pour eux que tu fasses autrement. On peut le voir vraiment comme ça. Donc ce que je propose aux mamans qui sont dans cette situation-là, et ça arrive très souvent, c'est de leur proposer un mantra qu'elles se répéteraient quand quelqu'un vous fait une remarque qui ne vous convient pas, de intérieurement vous dire « c'est son avis, il a raison de penser ça parce qu'il ne connaît pas mon expérience, il ne connaît pas ma situation, il n'a aucune idée de mes émotions, de ma logistique et de mes propres besoins. » Je peux entendre ça d'une manière détachée. Je ne suis pas obligée de répondre à cette personne. Je n'ai pas à convaincre qui que ce soit de ma manière d'élever mes enfants. S'il veut échanger, je pourrais prendre en considération ses questions, mais je n'ai personne à convaincre. Mon énergie est dirigée vers les choses qui font sens. Et ça, c'est compliqué pour certains de l'entendre. Si les gens autour de vous ne veulent pas entendre que votre position a une logique, a une racine, tant pis pour eux. Évidemment, si vous habitez en collectivité et que vous habitez avec la belle-mère, comme c'était le cas aussi quand je travaillais encore à l'école, là, ça va être répétitif. Parce que si chaque jour, votre belle-mère vous répète « Oh, t'es trop gentil avec tes enfants, tu vas en faire des enfants rois, il ne faut pas les prendre dans les bras, pose-le donc, laisse-le pleurer. » Ce sont des témoignages que j'avais régulièrement en classe. Quand les belles-mères pensent tout savoir, surtout parce qu'elles ont eu des enfants, les remettre à leur place devient vraiment de la dentelle, devient vraiment compliqué. Il faut user d'une belle stratégie verbale pour faire comprendre à belle-maman qu'elle n'a pas raison surtout. Elle a une expérience de maman, de belle-maman, de grand-mère, qui est propre à son chemin, à son vécu, à son héritage culturel, et c'est très bien. Mais ce n'est pas elle qui décide pour votre parentalité à vous. Et je vais vous raconter une autre anecdote aussi. J'étais toute jeune instite, et donc je n'avais pas encore vraiment le recul pour l'entretien avec les parents. Et un jour, je propose à une maman de discuter du comportement de son jeune garçon qui avait 3 ans, et elle arrive avec sa mère. Donc, je suis un petit peu surprise que j'ai devant moi donc la grand-mère et la mère en même temps. Et donc, je leur propose d'entrer à mon bureau et on discute du comportement du petit garçon. Et en fait, à chaque fois que je décrivais le comportement du petit garçon, sans émettre de critique ou de jugement, je décrivais seulement, c'est la grand-mère qui intervenait en disant « oui, mais c'est normal parce que… » Et elle complétait toutes les remarques que je faisais du petit garçon en classe, comme si je l'attaquais personnellement et que je la nommais responsable du comportement de cet enfant. À aucun moment, je ne nomme responsable les parents d'un comportement d'enfant. Les enfants ont un comportement qui est lié à leurs propres besoins et leurs propres émotions. Ce n'est pas de votre faute si le petit garçon a tapé dans la jambe de la copine, a volé un objet au supermarché. Tout ça n'est pas de votre faute. Tout ça est arrivé. Et ce jour-là, quand je regardais la maman, je voyais que la maman ne pouvait pas réagir face à la présence de sa mère. Et on a eu l'occasion, hein, pendant toute l'année, d'échanger avec la maman en direct. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte que donner ses choix éducatifs à sa propre mère, imposer sa vision de l'éducation et de la parentalité à sa propre mère, était un enjeu vraiment colossal. Ce jour-là, j'ai compris à quel point les mères qui se sentent en basse estime d'elles, en basse confiance en elles, par le chamboulement hormonal, par le début de la mise en place d'une routine avec leur bébé, peuvent être complètement englouties par une grand-mère qui croit tout savoir, par une grand-mère qui veut aider, qui veut faire à la place d'eux. Donc là, aujourd'hui, je vous invite à reconsidérer que les gens autour de vous qui vous donnent des conseils, qui vous donnent leur avis, qui vous donnent leur opinion, ils ont un petit bout d'intention de vous donner leur savoir, même si c'est maladroit, et ils pensent que c'est la meilleure façon de faire. Parce que pour eux, ça a marché. Et encore, on pourrait revisiter aussi le fait que ça a marché. Peut-être qu'il y a des conséquences à long terme qu'on n'a pas complètement pu évaluer. Les gens autour de vous qui vous critiquent, qui vous démontent, qui vous font des commentaires sur votre mode d'éducation ont une vision différente de la vôtre et se sentent remis en cause par votre façon de faire. Ils se sentent mis en porte-à-faux alors que vous, vous n'avez rien fait. Par le simple fait que vous, vous agissiez autrement, ils se sentent, eux, remis en question. Et ça peut être tellement inconfortable d'être remis en question. Est-ce que vous, vous pouvez vous connecter à un moment où vous vous êtes remis en question? Ben, on n'a pas envie que quelqu'un vienne « Ah ben, je te l'avais bien dit, tu m'écoutais pas, t'aurais dû faire comme ceci, comme cela. » Quand on a l'humilité de se remettre en question, et c'est vraiment inconfortable, hein, donc je me relis à vous si vous êtes pleine de doutes en ce moment sur les décisions à prendre sur la parentalité. Du coup, j'en profite pour vous pinguer le lien sur le mythe de la mère parfaite parce que ça parlait vraiment beaucoup de ça dans l'épisode 97. C'est que ce qu'on attend d'une mère parfaite, c'est de savoir tout le temps comment réagir, de savoir comment faire, d'avoir les bons questionnements, d'avoir les bonnes informations. C'est tout bonnement impossible parce que vous allez construire votre parentalité en fonction de qui vous êtes actuellement. Et que vous êtes constamment en train de grandir, de mûrir et d'avoir des nouvelles connaissances. À votre premier enfant, vous ne réagirez pas comme à votre deuxième, votre troisième ou votre quatrième. L'expérience va jouer, le soutien familial va jouer, les amis autour de vous vont jouer. Si vous avez des spécialistes autour de vous, si vous connaissez très bien une orthophoniste, vous allez être sensibilisé à la question du dialogue avec l'enfant, du langage, de la lecture. Parce qu'autour de vous, il y aura un faisceau d'informations qui va sensibiliser ces domaines-là. Si vous avez des coachs sportifs autour de vous, vous connaîtrez l'importance de l'oxygénation des muscles, de l'aération, du renforcement musculaire, de la bonne santé, parce que ça fera sens avec ce que vous côtoyez. Donc quand on devient parent, il y a un juste équilibre à trouver entre les informations que j'ai déjà et qui vont me permettre d'avancer et d'agir, et puis les informations que je n'ai pas encore, et que je me propose d'aller rechercher pour mieux me sentir confiante, pour mieux avancer dans mon chemin de parent. Et ça, c'est une sorte de vulnérabilité qui, quand on est vraiment étranglé dans « mais par quoi je dois commencer, je ne sais pas quoi faire, tout le monde me dit de faire ça, mais moi je ne le sens pas », il y a ce moment où, oui, il faut vous écouter sur vos choix et vos envies, et il y a un moment où il faut peut-être demandez aux personnes en qui vous avez confiance un avis neutre et extérieur. Parce que eux-mêmes ont considéré, ont étudié, ont été formés sur ces questions-là. Si votre enfant a un problème de sommeil, vous irez voir un spécialiste du sommeil. Si votre enfant a du mal à respirer, vous allez peut-être voir un spécialiste de la respiration. Et c'est tellement normal. Mais le fait d'être englouti par une belle-mère, une mère qui veut faire à votre place, ça en dit aussi long sur la pose des limites de vos propres actions. Et ce n'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça, c'est que c'est tellement difficile de poser des limites aux gens qui veulent faire à notre place croyant nous aider. Donc quand tu as fait tes premiers choix, tu as peut-être douté, tu as peut-être ajusté, tu as peut-être changé d'avis, et c'est tant mieux. Et si ça ne convient pas aux gens autour de toi, eh bien ce n'est pas très grave, parce que les gens autour de toi n'ont pas le même recul de ton expérience et de ton parcours. Ils n'ont qu'un tout petit bout du tableau. Donc le tout petit bout du tableau qu'ils ont de toi ne peut pas remplacer tout ce que tu as eu comme réflexion. Peut-être que ça fait des années que tu réfléchis à si tu veux allaiter ou si tu veux donner le biberon. Les gens arrivent et te donnent leur opinion. Ben, très bien, mais ils n'ont pas eu l'historique. Tu es la seule à pouvoir avoir l'historique de ce que tu veux faire avec ton enfant. Je me souviens d'un papa qui était élevé aux Antilles et qui, pour lui, taper son enfant, punir son enfant, notamment il mettait sa fille dans une armoire alors qu'elle avait 2 ans, c'était une manière de lui faire comprendre les règles, de lui faire comprendre qui décide. Ce monsieur n'avait pas encore eu le temps de revisiter que l'éducation qu'il avait reçue pour lui-même, d'être puni dans une armoire, d'être frappé, d'être dévalorisé, d'être humilié, il y avait d'autres façons de faire pour sa fille. Et quand il est devenu papa, pour sa fille, c'était tout naturel, quand elle avait un comportement qui ne lui convenait pas, de lui crier dessus, de la taper, de l'enfermer dans l'armoire, de lui dire qu'il ne l'aimait plus, c'était un comportement qu'il avait vécu, lui, en tant qu'enfant, qui s'était imprégné. Il n'avait pas pu l'analyser, il n'avait pas pu le conscientiser sur son chemin avant de devenir papa. Donc c'est un travail qu'on a fait en classe, c'était bien avant que je sois facilitatrice parentale, mais c'est ça qui m'a fait évoluer dans ce sens-là. C'est que les parents qui n'ont pas encore eu le temps de se poser sur l'éducation qu'ils ont reçue, sur la manière dont ils ont soldé un petit peu les comptes avec leur propre mère, leur propre père, la relation à la violence, à la punition, à la soumission et aussi à l'inconfort d'avoir été enfant et d'avoir subi tout ça, quand on devient parent et que c'est à nous de poser le cadre et c'est à nous de poser l'autorité, mais comment est-ce qu'on fait pour démêler tout ça alors qu'on ne dort pas bien, alors que l'enfant fait pas ses nuits, fait ses dents, alors que l'enfant est peut-être malade? Au moment où l'enfant naît, comme c'est difficile de revisiter les décisions que tu vas prendre en tant que nouveau parent. Donc ce qu'on propose souvent aux couples qui se marient, je me rappelle, ma sœur m'avait raconté ça à la préparation au mariage, c'est qu'il leur proposait déjà de réfléchir au mode d'éducation qu'ils voudraient un jour donner s'ils ont des enfants. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas encore d'enfant, si vous envisagez un projet d'enfant, eh bien vous pouvez déjà revisiter tout ça. Et si vos enfants sont déjà nés, vous pouvez quand même faire le même travail, bien entendu. Mais vous aurez une disponibilité qui vous fera un socle de réflexion une fois que l'enfant sera né. Parce que quand l'enfant est né, il y a toutes ces décisions du quotidien. Quel pédiatre choisir? Est-ce qu'on doit déménager? Est-ce que je me mets à mi-temps? Qui va garder notre enfant? Toutes ces décisions presque urgentes prennent la place sur les discussions et les décisions de fond. Quel mode d'éducation on va donner à notre enfant? À quel moment on se pose en disant « j'aimerais plutôt donner cette éducation-là, être à l'écoute de mon enfant, prendre du temps avec lui, faire aussi un équilibre pour mon couple, faire un équilibre pour ma vie intérieure, ma vie spirituelle ?» Ça fait sens sur le papier, mais une fois que vous êtes parent, comment le mettre en place dans votre emploi du temps? Parce que nos journées ne feront toujours que 24 heures. Une fois que vous avez consacré déjà 6 ou 7 heures avec le transport à votre travail, il reste peu de temps pour créer la relation que vous voulez avec votre partenaire de vie, avec vos enfants, voir l'avenir, voir un petit peu le contexte, l'environnement, les ressources dont vous avez déjà. Et tout ce que vous avez mis en place n'est pas perdu. Par contre, ça vous sert d'expérience et ça vous sert de base aussi pour regarder la personne qui vous critique en disant « j'entends ce que tu me dis ». Mais ce n'est pas mon chemin actuellement. Vous êtes en train de prendre des décisions qui sont liées à votre propre chemin. Alors, ça peut être un chemin chaotique, hein, suivant l'enfance que vous avez eue. Ça peut être un chemin plus doux et plus lisse parce que vous avez été soutenu vous-même. Et auquel cas, bah, l'éducation que vous allez donner, elle sera plus proche, en fait, de ce que vous avez déjà vécu. Donc, il y aura moins ce gouffre à combler. Mais pour les mamans que j'accompagne majoritairement, il y a déjà une sorte de pardon sur notre parcours au ressenti d'éducation à nous, à faire, pour mieux comprendre pourquoi on réagit comme ça avec nos enfants. Pourquoi on crie sur nos enfants. Pourquoi des fois on a envie de les taper. Ou pourquoi on veut plus passer autant de temps avec nos enfants parce qu'ils réactivent, ils déclenchent une souffrance, une douleur qu'on n'avait pas encore été explorée. Donc tous ces termes, ils sont un petit peu en satellite, hein, entre j'affirme qui je veux être comme parent, je comprends que qui je suis actuellement comme parent est lié à mon passé et à mes projets de vie, que quand on est un couple qui a reçu la même éducation, mais il y a aussi une harmonie à trouver avec le partenaire de vie. Parce que vous pouvez avoir reçu une éducation plutôt empathique, douce, bienveillante, positive de votre côté, et puis votre mari, pas du tout. Comment créer un cadre un petit peu cohérent pour les enfants si vous-même, vous n'avez pas la même vision de l'éducation avec le partenaire de vie? Ça peut être un point de discussion avant le mariage, avant l'enfant, si vous avez l'occasion de faire un petit débat là-dessus avec la personne qui partage votre vie. Mais c'est vrai que quand l'enfant est là, quand le deuxième enfant est là, quand le troisième enfant est là, on est déjà un petit peu dans la grande roue. Ça tourne en continu. Il n'y a pas beaucoup de boutons stop une fois que les enfants sont arrivés. Si vous avez déjà des enfants, il est encore tout à fait honorable, possible, proposé de faire le point sur quelle éducation vous êtes en train de leur donner. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'elle vous paraît légère? Est-ce qu'elle vous paraît souffrante? Si elle vous paraît légère et qu'elle vous convient, eh ben bravo, félicitations, continuez comme ça, surtout si le partenaire de vie, votre femme ou votre mari, est d'accord aussi avec cette éducation et que vous ne voyez pas vos enfants souffrir, c'est génial. Si par contre vous ressentez une gêne à l'idée de faire ce que vous faites actuellement, ou s'il y a des disputes au sujet de l'éducation et du mode de fonctionnement avec le partenaire de vie, avec votre mari, avec votre femme, si c'est continuel, si c'est répétitif et que vous voyez que peut-être il y a déjà un impact sur vos enfants, ce sera le moment de se poser, donc avec un professionnel, aller voir peut-être à la PMI, aller voir peut-être une thérapeute que vous connaissez pour démêler comment vous voyez l'éducation. Mais vraiment, le regard des autres arrive en tout dernier et ce regard des autres, ces critiques que vous allez recevoir à l'extérieur, n'est tellement pas important par rapport à ce que vous vous dites, vous, de votre propre éducation. Le plus important, c'est est-ce que je comprends pourquoi je fais ce que je fais avec mes enfants? Quel sens je mets à la pose des limites, à la pose du cadre? Comment est-ce que je leur fais adapter leur comportement que moi, je juge inadapté ou inacceptable? Ça dépend vraiment des familles pour les adjectifs. Et ça, ça me paraît beaucoup plus important que de vouloir convaincre les gens autour de nous qu'on fait le bon choix. Il y a des choix pour lesquels je ne cherche même plus à expliquer pourquoi je fais comme ça avec ma fille. Je fais comme ça avec ma petite parce que j'ai vécu d'autres situations avec ma grande, parce que j'ai vécu, bah, je vous en parlais une dernière fois, la cour d'assises avec des mineurs qui expliquaient leur parcours, parce que j'ai été témoin de beaucoup de familles dans l'institution qui avaient fait des choix eux-mêmes et dont je voyais les effets sur mes élèves. Donc en fait, tout ce panel d'expériences me guide vers ces décisions en 2023. Mais je n'ai plus à convaincre qui que ce soit. Je peux apporter mon catalogue de situations aux clientes avec qui je travaille, mais je ne cherche plus à convaincre. Et vous, si vous avez l'envie de convaincre les gens autour de vous, ça peut être éventuellement à reconsidérer aussi. Est-ce que vous avez besoin de leur validation pour avancer? Est-ce que vous avez besoin qu'ils soient d'accord avec vous? Est-ce que vous avez besoin qu'ils vous comprennent? On peut être dans l'appartenance à cette communauté sans être totalement compris. On n'est pas obligé de raconter tous nos choix de vie non plus. On peut avoir une intimité et un jardin secret pour certains domaines. Je me souviens d'un papa qui était venu dans une room une fois et qui avait dit « Non, mais quand on va chez le pédiatre, on lui dit pas la vérité, hein. On lui dit tout ce qu'elle veut entendre. » Parce qu'on se sentirait jugé, critiqué et qu'on n'a pas envie de ça. Et je trouve ça assez représentatif. Des gens qui vont voir un professionnel de la santé ou de l'éducation et qui ne veulent pas révéler ce qui se passe vraiment par peur d'être jugé, critiqué. On peut éventuellement changer de professionnel, hein, ça c'est une option possible. Mais le fait est qu'on n'est pas obligé de raconter non plus tous nos choix à tout le monde. Vous pouvez garder l'intimité de vos décisions à vous, sans faire étalage de « moi je fais comme ça, tu devrais faire comme ça aussi ». Vivons heureux avec nos principes, nos règles, nos valeurs et notre cohérence à nous. Maintenant, si ça tombe sous le coup de la loi, évidemment, on ne va pas pouvoir cautionner ça. Parce qu'il y a des témoignages de mamans qui frappent leurs enfants en disant « il l'a bien mérité » ou « moi j'ai été frappée et je n'en suis pas morte ». Là, on est dans un cadre qui sort de la loi. La violence éducative est punie par la loi. On ne peut pas taper son enfant. Alors, évidemment, personne ne va venir frapper à votre porte vous demander si vous tapez sur vos enfants. Mais au sens de la loi telle qu'elle est rédigée, l'enfant a le droit à une sécurité physique, affective, émotionnelle et intellectuelle. Donc, frapper un enfant n'est pas compatible avec cette sécurité physique. Pourtant, il y a des parents qui vont frapper et qui vont dire que eux-mêmes, ça n'a pas eu d'impact, le fait qu'ils aient été frappés dans leur enfance. Et tout ça, c'est difficile à entendre. Hein. Et je conçois très bien que la nuance entre vouloir faire comme on veut et vouloir s'éloigner de l'éducation qu'on a reçue, ben, tout ça, c'est très subtil comme décision. Quand les gens autour de vous critiquent votre façon de faire, ils réfléchissent depuis leur colline, avec leur vécu, avec leur lecture, avec leur cercle d'amis, leur religion, leurs coutumes. Comment ça pourrait être la même que vous? Même si vous appartenez au même village, à la même communauté, ou que vous êtes né la même année, vous n'avez pas les mêmes parcours. Et ces parcours-là, ils peuvent être exprimés, mais ils n'ont pas obligé d'être comparés. On n'est pas obligé de faire un duel ou une battle entre qui a tort, qui a raison. On pourrait, hein, mais ça aboutirait soit à un dialogue constructif, dans le meilleur des cas, soit à un retranchement mutuel de chacun dans son camp pour dire bah, « tu ne me comprends pas, ce n'est pas la peine qu'on continue ». Voyez vraiment comment vous voulez élever vos enfants d'une part de vous à vous, ensuite avec le partenaire de vie, s'il y a une cohérence qui peut matcher, il y a une construction commune avec vos systèmes d'éducation mutuelle passés, votre héritage éducatif à tous les deux. Et ensuite seulement, on verra comment on appréhende les jugements du pédiatre, les jugements de la maîtresse, les jugements de la référente de crèche, les jugements de la gastro-entérologue. J'ai un petit clin d'œil à une de mes clientes ce matin qui m'a dit qu'elle a eu des phrases piquantes d'un professionnel de santé sur sa façon d'élever son garçon. Donc on a reformulé ça, je lui ai proposé un mantra pour la prochaine fois, quelqu'un lui donne un avis sur sa manière de s'occuper de son fils. Parce qu'on a besoin de se protéger aussi des phrases des autres. On n'est pas là pour s'exposer à la critique et au jugement permanent. Donc protégez aussi votre sphère privée. Si ça dérange les autres, eh bien, tant pis pour eux. Si c'est vraiment cohérent pour vous, que ça ne tombe pas sous le coup de la loi, que vous vous sentez bien avec ça, que vous voyez que vos enfants sont épanouis, ne ressentent pas de frustration, ne sont pas extrêmement tristes ou ne sont pas dans l'opposition constante, c'est peut-être que vous avez trouvé la recette pour vous. Et comme il n'y a pas de recette magique en parentalité, préservez cette recette. N'essayez pas de la vendre à tout le monde, c'est votre recette, elle marche pour vous. Avec votre maison, avec vos enfants, avec votre métier, avec votre logistique. Préservez votre recette et si les gens ne sont pas contents, tant pis. Acceptez de décevoir. Je vous ai repingé cet épisode parce qu'il fait son chemin dans la tête des clientes en général. Vraiment, faites-vous confiance dans le sens où vous allez avoir des premiers pas de parents, vous allez ajuster, vous allez tester des choses qui vous conviennent, vous allez peut-être tester un mode de fonctionnement qui au début vous paraissait un peu étrange et qui finalement va vous convenir tout à fait, ou alors tester quelque chose qui vous plaisait au début et finalement bah, détester ça. Hein. Il peut y avoir aussi des mamans qui ont commencé l'allaitement et qui ont détesté ça et qui ont eu ce doute de la société veut que j'allaite, ma mère veut que j'allaite, mes copines veulent que j'allaite. Ça demande une certaine force pour admettre que non, on n'a pas envie de maintenir l'allaitement, même si l'OMS recommande, même si tout le monde autour de nous recommande. Parce que si c'est une souffrance, si vous le faites à contre-cœur, si c'est trop compliqué, si vous n'avez plus d'énergie, mais peut-être que l'allaitement n'est pas votre solution. Je ne vais ni prôner l'allaitement pour tous, ni le biberon pour tous. Moi, je suis pour un choix vraiment conscientisé de ce qui vous fait du bien à vous. Une maman qui est au bout de sa vie et qui veut continuer d'allaiter parce qu'elle pense que sinon son bébé va manquer quelque chose, c'est plus dangereux pour la maman que pour le bébé. Le bébé va survivre, même s'il n'est pas allaité. Donc on a un petit dosage aussi de perfectionniste quand on est maman qu'on peut reconsidérer. L'épisode que je vous avais pingé tout à l'heure sur le mythe de la mère parfaite, il est aussi difficile parce qu'on voudrait toujours faire plus, toujours faire mieux. Alors, quand on fait tout l'éventail de ce que les médias nous demandent, la motricité libre, la DME, l'allaitement, le cododo, la parentalité proximale, l'écharpe, oui, tout ça, ça a l'air compatible. Mais est-ce que vraiment, dans votre organisation du temps, ça va rentrer? Est-ce que vous êtes en capacité de mener toutes ces injonctions? Est-ce que vous pourriez peut-être choisir vos combats? Décider de ce qui est bon pour vous. Je vous parlais de divergence tout à l'heure, je vais vous en redonner une autre. Il y a eu une cabale contre les parcs en bois où on mettait les enfants pour qu'ils jouent tout seuls. Et j'avais assisté à ce débat, notamment sur Facebook, entre les groupes de mamans, les forums de mamans. Et à ce moment-là, moi, j'étais encore maman solo. Et en tant que maman solo, pour être sûre que ma fille ne soit pas en danger, n'aille pas toucher la prise, n'aille pas faire tomber un bibelot ou n'aille pas se coincer les doigts dans la porte, j'avais fait le choix de garder le parc en bois pour mettre ma fille dans ce parc en bois. Mais est-ce que j'expliquais aux gens que j'avais un parc en bois dans mon salon? Pas du tout. Et une fois, je me rappelle avoir dit ça à une cliente qui m'a dit « Oh, mais ça me fait du bien, Séverine, que tu dises ça !» Parce que moi, j'osais même pas l'utiliser, tellement j'avais honte, parce que tout le monde dit que c'est mal, il faut la motricité libre et tout. Mais qu'est-ce qui vous fait du bien pour vous à cet instant-là? D'être sécurisé qu'il n'arrive rien à votre enfant et d'utiliser un parc de temps en temps. Il ne s'agit pas de mettre votre enfant toute la journée dans un parc. Il s'agit de ne pas se fermer la porte de stratégies qui seraient soulageantes dans votre cas pour vous. Quand je mettais ma fille dans mon parc, émotionnellement, je me sentais rassurée parce que pendant que je faisais à manger, elle n'était pas en danger. Une maman qui refuserait une stratégie sous prétexte que la société dit « non, pas de parc » se mettrait encore plus en incertitude, en insécurité, de devoir emmener son enfant sur la hanche pendant qu'elle cuisine, de devoir laisser son enfant gambader dans la cuisine pendant qu'elle utilise tout un tas d'ustensiles. La sérénité de la maman solo, franchement, c'est un domaine dont les médias pourraient s'emparer rapidement. Quand je vois les témoignages de toutes ces mamans sur les réseaux, je me reconnecte à la maman solo que j'ai été pour ma première fille, à la difficulté que la société n'imagine pas sur la résolution de problèmes au jour le jour. Donc si en plus on doit se prendre toutes les réflexions extérieures, les injonctions sur « tu devrais pas faire ci, tu devrais faire ça, t'es pas une bonne mère si » ou « tu serais une meilleure mère si », à un moment, c'est complètement étouffant et étranglant. Donc admettez que vous ne pourrez pas tout cocher parfaitement, c'est un premier pas. Choisissez vos combats urgents. Si les gens critiquent autour de vous, ce n'est pas votre problème. S'ils ont un avis constructif, vous pouvez éventuellement dialoguer ou échanger avec eux, mais en aucun cas devoir les convaincre ou prouver que vous avez la meilleure façon d'élever vos enfants. Et le dernier conseil, bien entendu, si je peux me permettre, avant de finir cette discussion, c'est si vous sentez que vous avez besoin de renfort, d'aide, de soutien, de poser ce que vous vivez, allez voir un professionnel. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez du recul sur les choix que vous avez posés. Si les choix que vous posez vous paraissent bien cohérents et que vous vous sentez bien et que votre enfant se sent bien, continuez. Si vous ressentez une souffrance, un épuisement, si vous voyez que votre enfant a changé de comportement, si un professionnel autour de vous commence à vous alerter sur le comportement de votre enfant, il y a peut-être des petites choses, des petites décisions à ajuster. Je ne sais pas lesquelles. Pour l'instant, vous ne savez pas encore lesquelles, mais vous allez pouvoir explorer ça avec un professionnel. En allant à la PMI, en allant demander au CMP s'ils ont de la place, en allant voir un thérapeute adulte, un thérapeute enfant, cherchez autour de vous qui pourrait vous donner des éléments pour renforcer votre autonomie de parent, votre autonomie de famille. Vous êtes libre de décider, mais prenez cette liberté aussi en responsabilité. On est responsable de tout ce qu'on va induire dans nos choix par rapport à nos enfants. Il y a une offre en juin si vous voulez être un petit peu apaisé et ressentir plus de légèreté en tant que maman notamment. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Merci pour votre écoute et puis je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.